L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information, trois titres, lundi 24 août 2026, lundi 24 août 1998. Cela fait exactement 28 ans depuis que le massacre de Kasika a eu lieu en provoquant la mort de plus de 1000 civils, parmi eux le chef coutumier de la communauté Nyindou, le Mwami, François Mubeza, et son épouse, des religieux et nombreux paroissiens. Les victimes directes et indirectes de ce massacre continuent de réclamer justice et réparation. Et la première mission de vérification du cessez-le-feu est arrivée lundi 24 août à Minembwe, comme convenu, au terme de la dernière réunion entre l'AFCM-23 et le gouvernement de la RDC en Suisse dans le cadre du processus de Doha. Cette mission est perçue comme le premier test concret sur le terrain des nouveaux engagements pris. Et les victimes de l'incendie qui a consumé dimanche dernier plus de 200 maisons au quartier Nkafu observent toujours impuissamment le reste de leurs biens calcinés. Dans la tristesse et la désolation, ces victimes, évaluées à plus de 300 ménages, plaident pour une assistance. Voilà donc tout pour le sommaire. Dans quelques instants, les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
Vous l'avez suivi au sommaire, les hélicoptères de la MONUSCO déployés dans le cadre du mécanisme conjoint de vérification élargie, plus MCVE, plus de la surveillance du cessez-le-feu, sont arrivés l'avant-midi de ce lundi 24 août à Minembwe, en territoire de Fizi. Il s'agit de la première mission de vérification du cessez-le-feu à Minembwe, dans la province du Sud Kivu. Le déploiement de cette mission à cette date fait suite aux engagements convenus à l'issue de la retraite d'évaluation tenue du 17 au 21 août en Suisse entre les représentants de Kinshasa et ceux de l'AFSAM 23. Selon le communiqué final rendu public à l'issue de cette rencontre, les deux parties ont notamment évalué l'état de mise en œuvre de l'accord cadre signé à Doha et adopté une feuille de route pour la poursuite des négociations sur les différents protocoles restants en vue de parvenir à la signature d'un accord de paix censé rétablir la paix et l'autorité de l'état dans l'est de la RDC. La mission de vérification du cessez-le-feu à Minembwe est perçue comme le premier test concret sur le terrain des nouveaux engagements pris au terme de ces nouveaux rounds des discussions menées en Suisse dans le cadre du processus de Doha. Selon la source citée, elle intervient après une mission de reconnaissance effectuée le 20 août avec l'appui logistique de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation RDC, MONUSCO, destinée à préparer cette opération de vérification. Et 28 ans après le massacre de plus de 1000 civils à Kasika dans la chefferie de Luindi, en territoire de Mwengam, les victimes directes et indirectes ainsi que les défenseurs des droits humains et autres personnalités continuent de demander justice et réparation. À l'occasion de la 28e année commémorative de ce massacre, intervenu le lundi 24 août 1998, des voix dénoncent l'inaction des organes judiciaires nationaux et la justice internationale face à ce qu'elle qualifie des crimes contre l'humanité. Les détails avec Mérie Mufano.
Selon Bulambo Mulungula, notable de la chefferie des Luindi, les familles victimes de ces massacres constatent malheureusement que leurs bourreaux circulent paisiblement et nombreux occupent même des postes et des responsabilités dans le gouvernement. Ces familles veulent que justice soit faite pour mettre fin à l'impunité longtemps décriée et pour empêcher à d'autres acteurs véreux de commettre des actes d'une telle cruauté, indique Bulambo Mulungula.
Nous célébrons la 24e commémoration du massacre des Luindi Kasika. Ce massacre a été perpétré du 24 août 1 lundi 1998 et jusqu'aujourd'hui, le lundi encore 24 août 2026, les gens de Kasika et toute la communauté de Banyindu n'assistent à aucune réparation ni justice de la part de notre gouvernement ni de la part de la communauté internationale. Les auteurs vaguent librement dans les pays. Ceux qui ont commis ces massacres et certains d'entre eux occupent des hautes fonctions dans le gouvernement. Nous demandons qu'il y ait justice et réparation concernant la population qui a été tuée, la population qui a perdu les leurs, c'est lundi là du 24 août 1998.
À l'occasion de la 28e année commémorative de ces massacres intervenus lundi 24 août 1998, des voix dénoncent l'inaction des organes judiciaires nationaux et la justice internationale face à ce qu'ils qualifient des crimes contre l'humanité. Il s'y est précisé qu'aucune activité n'a été organisée à Kasikasé lundi 24 août à cause du contexte sécuritaire précaire dans cette partie de la province du Sud Kivu. Entre-temps, dans un message publié à la même occasion, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a indiqué que, 28 ans après Kasika, il est temps de briser les cycles des violences et de l'impunité, d'établir toute la vérité, de rendre justice aux victimes et de mettre fin aux violations récidivistes du droit international et des droits humains en République démocratique du Congo. Pour rappel, le lundi 24 août 1998, les populations de plusieurs villages de la chefferie des Luindi, principalement Kasika, avaient été massacrées. Les Mwami François Mubeza, chef coutumier de la communauté Nyindu, avait été exécuté et son épouse, enceinte des jumeaux, éventrée. Des religieux et de nombreux paroissiens furent tués, conclut Mukwege, qui appelle le gouvernement de la RDC et la communauté internationale à mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport Mapping.
Et un conducteur de taxi-moto, dit motard, a été tué dans la soirée de dimanche dernier par des hommes en armes non identifiés dans le sous-village Yenga à Kakondo, dans le village de Nzinzi, groupement de Luyi, en territoire de Kabare. Tout a commencé aux environs de 19h au cours d'une incursion d'hommes armés qui ont ravi des téléphones avant de s'en prendre à 9 jeunes du village qui ont été amenés à une destination inconnue. Sur leur passage, 7 de ces jeunes ont été libérés, à l'exception d'un seul qui, du reste, vit avec handicap, indique la société civile locale. De passage dans la même plantation, en provenance de Luyi pour Katana, avec un passager, un conducteur de taxi-moto, a été fusillé par les mêmes bandits armés et décédé sur les lieux. Son client, par contre, a été atteint par une balle et a été transféré dans une structure sanitaire pour des soins appropriés. Pour la société civile locale, sous noyau de Luyi, des mesures sécuritaires devraient être renforcées dans ces milieux à travers notamment le déploiement des éléments de l'ordre sur ce tronçon routier. Le président de l'ancien civil dans le groupement de Luyi, Didier Tshiza Bayongwa, en parle.
Parmi les 9 jeunes emportés, il y a un certain Paulin, handicapé de son état. En arrivant à plus de 4 km, ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de tous ces jeunes, mais ils avaient tout simplement besoin d'un certain Paulin, handicapé de son état. 8 jeunes ont été relâchés, mais malheureusement, M. Paulin n'a pas été relâché parce qu'ils ont dit qu'ils sont venus à la recherche de M. Paulin. Le motard, avec son client qui était en train de quitter Luhihi vers Katana, les ont rencontrés en cours de route. Les malfrats ont pensé que c'était une intervention des militaires. Ils ont tiré sur le motard et son client. Le motard a succombé sur place. Le client a été amené à l'hôpital Fomilak Katana, là qu'il suit des soins et son état de santé est très critique. Il y a les militaires qui sont venus des cliniques vers Fomilak Katana et d'autres sont venus de la cimenterie de Katana. Malheureusement, les malfrats étaient déjà partis. Nous plaidons pour que ce tronçon soit sécurisé parce qu'entre l'hôpital Fomilak Katana et la cimenterie de Katana, il y a moins de 4 km. Ce genre de pratiques, ils passent toujours même pendant la journée.
Vous venez de suivre Didier Tshiza Bayongwa, président de la société civile dans le groupement de Luyi. Et la nouvelle dynamique de la société civile du Sud qui vous dénonce la recrudescence de l'insécurité dans la commune de Bagira, particulièrement dans le quartier Chikera à Bukavu. Le cas le plus récent remonte à la nuit de samedi 22 au dimanche 23 août 2026, où la résidence familiale d'un cadre de base sur l'avenue Tshishule a été attaquée par des hommes armés non autrement identifiés. Selon cette structure citoyenne, les assaillants ont ouvert le feu, faisant 4 morts, dont 2 enfants, l'épouse du cadre des bases et l'enfant de son beau-frère. 2 autres personnes grièvement blessées poursuivent les soins, indique notre source. Face à cette situation, la NDC appelle les autorités militaires et policières à renforcer la sécurité dans cette partie de la province, notamment à travers des patrouilles régulières et des enquêtes pour retrouver les auteurs de cette attaque. Il invite également la population à rester vigilante et à dénoncer tout mouvement suspect. Son porte-parole provincial, Maître Wilfried Abamungu, en parle dans cet élément.
Nous dénonçons avec fermeté cette insécurité devenue monnaie courante dans cette partie de la ville de Bukavu qui sème la désolation et la psychose au sein de la population. Nous recommandons aux autorités militaires et policières de diligenter une enquête urgente pour identifier et arrêter les auteurs de ces crimes odieux. Aux autorités de renforcer la sécurité des paisibles citoyens par l'organisation de patrouilles mixtes nocturnes et d'Irne dans la commune de Bagira. À la population de rester vigilante, de dénoncer tout mouvement suspect et de collaborer étroitement avec les cadres de base et les services de sécurité. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille éprouvée et exigeons que justice soit faite.
Maître Wilfrida Abamungu de la nouvelle dynamique de la société civile NDC. Et dans la ville de Bukavu, un braquage a été opéré lundi 24 août sur l'avenue de la Presse vers Pajeko en commune d'Ibanda. Au cours de cette opération qui s'est déroulée en pleine journée et qui a visé une institution financière, les assaillants ont apporté de l'argent selon des témoins de l'événement. Le bilan fait également état d'une personne blessée par balle sur place. Sur des images devenues virales sur les réseaux sociaux, on y voit des personnes en tenue civile finir leur opération et s'en aller sans précipitation, ce qui indigne plusieurs internautes qui invitent les services de sécurité à redoubler de vigilance pour mettre fin à des opérations aussi violentes en plein centre-ville de Bukavu. Vous suivez Radio Mendeleo, dans quelques instants, la suite de ce radio-journal.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est Radio Mendeleo. Plus et mieux, pour et avec ses auditeurs.
Changeons de chapitre à présent. Un jour après l'incendie qui a consumé plus de 200 maisons dans l'avant-midi de dimanche dernier sur avenue Hôpital Général au quartier Nkafu dans la commune de Kadutu, les victimes restent abandonnées à elles-mêmes. Dans un contexte de crise économique, des dizaines de familles n'ont que leurs yeux pour pleurer pendant que leurs investissements étaient en train d'être dévorés par les flammes dans cette partie de la ville de Bukavu. Retour sur les faits, la situation des terrains dans ce reportage rendu par Hélène Boudjiriri.
Sur le lieu, certains habitants ont encore de la peine à croire à ce qui leur est arrivé. Main sur la joue, ils observent impuissamment les restes de leurs biens calcinés. Certaines victimes ramassent les restes des tôles endommagées par le feu, alors que certains enfants circulent à la recherche des métaux, communément appelés Mabende. Des témoins parlent d'un événement particulier et difficile à décrire. Présente au moment du drame, cette femme nous partage son témoignage.
Je venais juste de l'église. En arrivant ici, j'ai vu cette maison en train de s'enflammer. Voulant évacuer ma valise, j'ai été surprise par le feu et j'ai tout abandonné. Je n'ai sauvé que mes trois enfants. Nous demandons aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide et aux autorités de faire la même chose. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Nous ne savons plus quoi faire. C'est un coup dur que nous venons de subir.
Tout en compatissant avec les victimes, la chef du quartier Nkafu Didienne Mwati déplore cet énième cas d'incendie. Elle appelle les habitants à plus de prudence et vigilance lors de l'utilisation de toutes les sources d'énergie. Didienne Mwati plaide également pour une assistance en faveur des familles qui restent sans abri dans un contexte de préparation de la rentrée scolaire.
Plusieurs maisons étaient calcinées et d'autres détruites pour éviter la propagation du feu. Jusqu'à présent, donc la cause n'est pas encore établie parce que dans la maison où l'incendie a commencé, il n'y avait personne. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont passé la nuit à la Belle Étoile. Et d'autres manquent où aller, même il n'y a pas à manger. Plusieurs biens de leur maison étaient partis. La population vit dans le désespoir et c'est pour cela que nous demandons à toute personne de bonne volonté de le venir en aide. Toute personne de bonne volonté qui peut avoir un cahier, un stylo, l'uniforme, parce que dans toutes ces familles, il y a des enfants. Et bientôt, dans des semaines, ce sera la rentrée scolaire. Celui qui peut avoir quelque chose comme un coup de main peut venir en aide pour ses écoliers. Je commence d'abord par adresser mes compassions à toutes les familles qui ont été victimes et ensuite d'être vigilant et de faire tout pour mettre à côté tout ce qui peut être à la cause des incendies. Mais aussi, je demande aux femmes de ne pas laisser la cuisine aux petits-enfants, mais aussi de veiller aux installations électriques, des panneaux solaires, ainsi de suite.
Signalons que certaines familles victimes de cet incendie passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres vivent dans des familles d'accueil et d'autres encore dans des églises et écoles voisines.
Et dans le reste de l'actualité, des toitures, des maisons détruites, des champs dévastés, des animaux, de la basse-cour emportée par les eaux des pluies, c'est le bilan d'une pluie accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu sur la majeure partie du groupement d'Izegué en territoire de Walungu l'après-midi de dimanche 23 août 2026. Le secrétaire administratif du groupement d'Izegué Kulondo Baganda, qui nous livre l'information, souligne que parmi les villages les plus touchés par cette catastrophe figurent Lugo, Karambi, Tishozi et Murinankuba. Ainsi, il appelle les personnes de bonne volonté à venir en aide, surtout aux personnes affectées, particulièrement les agriculteurs qui préparaient déjà la saison culturelle afin de mieux s'en sortir. Le secrétaire administratif du groupement d'Izegué, Kulondo Baganda, en parle.
La pluie qui s'est abattue sur la majeure partie du Kuma d'Izegué a fait beaucoup de dégâts matériels. Des toitures des maisons ont été emportées par les vents violents. Les toitures de l'église catholique d'Izegué, des maisons des citoyens, même les chats ont été inondés. Or, les cultivateurs préparaient la semis d'ici là. Nous prions aux hommes de bonne volonté, aux humanitaires, tant national qu'international, de les venir en aide.
Et la communauté Léga en général, réunie au sein du Lusu Léga général, est appelée à l'unité, la cohésion et le combat pour un idéal commun, à savoir la dignité et la défense des droits de ses membres. Cet appel des Congolos, Sinabantou Simon, député honoraire et notable de la 10 communauté au terme d'une réunion tenue samedi 22 août dernier sous la facilitation du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. Cette réunion qui a regroupé les représentants des 4 territoires sur les 5 où est localisée la communauté Léga avait pour objectif d'harmoniser les vues et mettre fin au bruit qui circule au sujet du comité directeur du Lusu Léga général, indique-t-il. Au terme des échanges, Maître Bassola Mulonda Apollinaire a été confirmé comme président du comité directeur du Lusu Léga général. À l'occasion, un message fort a été lancé à toute la communauté, celui de ne pas laisser la politique venir diviser les membres. Kongolo Sinabantou Simon rappelle que les statuts de la structure sont clairs et le temps n'est aux guerres mais à construire la paix autour des valeurs prônées par la communauté Léga. On l'écoute dans ses propos.
J'aimerais d'abord dire merci pour la coordination de la société civile qui nous a réunis. Nous sommes réunis 4 territoires sur 5. Vraiment, c'est bon parce que Mourega dépasse de tout et nous connaissons que ça a pris fin. Nous savons que nous avons un seul interlocuteur qui est le président actuel. Le statut nous a dit qu'il n'y a aucun article qui interdise à ce que Pang ne puisse pas donner son fils pour diriger ce mandat. Et nous, de Chabuna, nous attendons notre mandat qui va venir après. Pour nos frères de Pang, Walikale, Banisuma et Mwenga, tous nous devons rester derrière notre leader ou interlocuteur, mais aussi de respecter nos textes qui nous régissent aussi. Parce que nous marchons aussi ce que nos prédécesseurs avaient fait. Nous devons rester ensemble, nous unir. C'est seulement que nous cherchons toujours la cohésion.
Et la fondation Placide Mutabunga a remis dimanche dernier 200 sacs de ciment aux chrétiens des chapelles catholiques de Lugendo et de Chirunga dans le territoire de Kabare au sud de Kivu. Ce geste intervient après les besoins exprimés par les fidèles suite à l'état des infrastructures religieuses et à l'éloignement de certaines paroisses. Pour Akilas Tawaku Derwa, conseiller principal de la fondation Placide Mutabunga, cette initiative est motivée par la situation difficile que vivent plusieurs chrétiens parfois obligés de parcourir des longues distances pour participer au culte. À travers cet appui, la Fondation souhaite contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil et au rapprochement des lieux de culte des communautés locales. La Fondation appelle également d'autres personnes de bonne volonté à s'associer à cette démarche afin de soutenir les initiatives communautaires et d'accompagner les populations dans l'amélioration de leurs infrastructures de proximité. Akilas Tawaku Derwa en parle.
La Fondation Placide Mutabunga œuvre dans différents domaines de la vie. Nous avons plusieurs projets. Vous le savez très bien, je crois que c'est nous des soulagements à la population, aux chrétiens en particulier, parce que la construction vraiment n'évolue plus et on est sûr que les travaux vont redémarrer. Pour atteindre la paroisse, la grande paroisse Abirava Centre, il faut vraiment un long trajet. Pour quitter Luda et arriver à la paroisse Saint-Joseph de Kabare, c'est un très long trajet. Mais quand ils commencent à prier au niveau de Luda, au secteur de Luda, c'est nous des soulagements à toute la population et tous les chrétiens catholiques. Je demanderai à la population, je demanderai à toute personne éprise d'une bonne foi de pouvoir toujours venir en aide aux œuvres spirituelles, aux œuvres de chrétiens. C'est pour montrer la valeur de la religiosité dans les milieux.
Espoir en plus bref, l'OCE Bukavu Dawa a lancé ce lundi 24 août sa préparation en vue de la saison sportive 2025-2026. À l'occasion, une première séance ouverte aux volontaires s'est déroulée au stade de la Concorde de Kadutu. Elle a connu la participation de plusieurs joueurs évoluant au championnat d'entente urbaine de football de Bukavu sous la conduite de l'entraîneur Robert Binja, assisté de Janvier Bagula, ancien joueur du club et entraîneur honoraire de l'AS Ruzizi. La prochaine séance d'entraînement est prévue le lundi 27 août prochain, toujours au stade La Concorde. Il s'est de préciser qu'après une participation mitigeuse en Ligue 1 de la Lina Foot la saison qui prend fin, l'OCE Bukavu Dawa a été relégué en deuxième division de la Lina Foot.
La revue de presse, Radio Mindelieu Capt, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
L'évolution des préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027 à Bukavu et les risques liés à la consommation excessive des boissons gazeuses et sucrées chez les enfants et l'alcool chez les adultes font partie des sujets commentés par la presse lundi 24 août 2026. La revue de presse avec Myriam Moufano.
Débutons cette revue de presse par la Prenelle RDC qui écrit « À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, plusieurs parents à Bukavu peinent à réunir le moyen nécessaire pour scolariser leurs enfants. Les coûts des fournitures scolaires, notamment les cahiers uniformes, chaussures et sacs, ainsi que les difficultés économiques liées à la crise dans l'est de la RDC, rendent la préparation de la rentrée particulièrement difficile pour de nombreuses familles. Les représentants de parents dénoncent également la perception de certains frais qu'ils jugent illégaux dans des établissements privés, notamment les frais des confirmations ou des réinscriptions. Dans les écoles publiques, malgré les principes de gratuité, certains parents affirment rencontrer des difficultés pour obtenir une place, ce qui complique davantage l'accès des enfants à l'éducation. Face à cette situation, les parents et la société civile, contactés par ces médias, appellent les autorités à renforcer les contrôles des établissements scolaires et à faire respecter les dispositions sur la gratuité et les frais scolaires. Ils sollicitent également l'appui des organisations humanitaires en faveur de familles les plus vulnérables, notamment celles affectées par la crise sécuritaire et les récents incendie à Bukavu, conclut la Prenelle RDC. De son côté, Life.info indique que la campagne Malé-Chobo-Racholeni alerte sur les risques liés à la consommation excessive des boissons gazeuses et sucrées chez les enfants, ainsi que les boissons fortement alcoolisées chez les adultes. À Bukavu et dans ses environs, la consommation régulière des sodas chez les enfants suscite des inquiétudes en raison de ses effets possibles sur la santé. Selon le nutritionniste clinicien Nicolas Ndandou-Kaniki, approché par ces médias, l'excès des boissons sucrées peut favoriser notamment les caries dentaires, une hausse des glycémies et à long terme, l'obésité, les diabètes de type D, l'hypertension et certaines maladies cardiovasculaires. Chez les adultes, l'abus d'alcool peut entraîner des intoxications, des accidents et à long terme, diverses maladies chroniques, notamment cardiovasculaires et hépatiques. Les nutritionnistes recommandent ainsi de sensibiliser davantage les familles, particulièrement les enfants, sur les conséquences d'une consommation excessive de ces boissons. La campagne Malé-Chobo-Racholeni, consacrée aux bonnes pratiques alimentaires dans les écoles de Bukavu, encourage notamment la consommation d'eau et des jus naturels comme alternative plus adaptée, conclut Life.info. Bouclons cette revue de presse par Actualité.cd qui écrit « Face à la propagation de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, le pape Léon XIV a appelé les dimanches 23 août 2026 la communauté internationale à renforcer son soutien à la riposte. Il insiste particulièrement sur l'implication des communautés locales dans les efforts de prévention et de lutte contre la maladie afin de contribuer à sauver davantage des vies. L'épidémie s'est étendue à plus de 50 zones de santé dans les 6 provinces, notamment les Turi, le Nord Kivu, les Sud Kivu, les Haut-Uele, la Tchopo et les Bas-Uele. La transmission reste active dans plusieurs foyers, tandis que l'insécurité, les mouvements des populations et les difficultés d'accès aux soins de santé compliquent la riposte. Des préoccupations sont également soulevées concernant la prise en charge du personnel engagé dans la lutte contre Ebola. Sur le plan médical, les groupes techniques de l'Organisation mondiale de la santé recommandent de privilégier les vaccins Ervabo, dans le cadre d'une étude clinique de phase 3 en République démocratique du Congo. Cette option vise à recueillir rapidement des données sur son efficacité contre le virus Bundibugyo, pour lesquelles aucun vaccin spécifique n'est actuellement suffisamment avancé pour une évaluation clinique. Son efficacité contre cette souche n'est donc pas encore établie, conclut ce média.
Par ici prend fin ce radio-journal. Émile Mouindo a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Mandela. Au revoir.